Voilà, le thème de notre soirée. Y a-t-il un espoir aujourd'hui dans un monde de souffrance? Il n'y a pas, je crois, de thème plus universel que celui de la souffrance, et particulièrement des questions qu'elle soulève. J'ai envie de dire, pour ne pas faire comme l'autruche, que notre monde est écrasé par la souffrance, que notre monde est comme un corps perclus de rhumatisme, il a mal partout. Et sans vouloir effectivement dramatiser à outrance, nous constatons que ce monde ne cesse d'accumuler drame sur drame, qui sont autant de plaies qui s'ajoutent, de plaies douloureuses. Assassinats, guerre par là, pédophilie, inceste, viol, racisme, antisémitisme, sont partout, chômage, insécurité, guettent tout le monde, crise financière, réchauffement climatique avec ses conséquences, sans parler peut-être des catastrophes naturelles qui s'amplifient, semble-t-il. Oui, le monde ne tourne plus trop rond. En même temps, nous sommes tous concernés par la souffrance. Elle frappe autour de nous, bien sûr, mais elle finit aussi par nous atteindre un jour. J'ai apprécié le témoignage de notre sœur Anne en particulier, qui a été atteinte dans sa vie par la souffrance. J'ai moi-même eu des moments difficiles de souffrance au décès de mon épouse il y a 8 années. Des choses donc qui nous arrivent dessus sans que l'on sache comment ni pourquoi, et avec lesquelles il faut faire avec, bon gré mal gré. Certains donc souffrent ouvertement, d'autres souffriront peut-être en silence. Un jour, un évangéliste racontait qu'il avait rencontré un homme tellement rayonnant qu'il le croyait sans problème. Et un soir, il le voit dans un de ses auditoires où il prêchait l'évangile, et du micro, là, il fait référence à cet homme au cours de son exposé. La réunion terminée, l'homme prend le prédicateur à part et lui ouvre son cœur sur ses énormes difficultés qu'il vivait depuis pas mal d'années. Difficultés professionnelles, difficultés physiques, familiales, etc. En fait, tout était en lui souffrance. Mais il rayonnait de joie parce qu'il expliquait au prédicateur qu'il avait lui aussi compris qui était Dieu pour lui. Ce soir, comme cela a été encore rappelé par les témoignages, c'est un message d'espérance que j'aimerais vous partager. Car oui, il y a un espoir dans un monde de souffrance. Et cette bonne nouvelle se trouve pas n'importe où, elle se trouve dans la Bible. Je sais, certains peuvent penser que c'est un vieux livre, écrit pour les enfants ou les faibles, un livre qui est dépassé, un livre qui est obsolète, mais pas du tout. C'est un livre qui, à sa lecture, a la puissance de transformer notre intelligence, notre cœur, et de changer notre vision des choses, particulièrement de ce monde aujourd'hui, en pleine souffrance. Et j'aimerais ce soir vous demander d'être honnête avec vous-même. Avez-vous lu ce livre pour en tirer des conclusions, et la conclusion qui n'a rien à apporter? Quelle image avez-vous de Dieu dont il est question dans ce livre? J'aimerais donc vous aider à réfléchir et peut-être à prendre une nouvelle orientation dans votre vie, si vous le désirez vraiment, et si vous laissez Dieu lui-même s'approcher de vous ce soir. Je vous en laisserai l'occasion tout à l'heure. J'aimerais donc partager un récit, j'en partagerai d'autres tout au long de notre rencontre, mais me baser ce soir sur ce récit tiré d'un évangile. Je lis ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 13, pour ceux qui ont pris leur Bible avec eux. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous, vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Lorsque je lis ce passage, eh bien, je suis renvoyé il y a 15 jours en arrière, où, nous l'avons vu, tout l'ouest de la France fut frappé par une terrible tempête. Ce texte nous renvoie aussi à cette même période, en Belgique, où des bébés dans une crèche se sont fait sauvagement poignarder. En lisant ce texte, je suis renvoyé un peu plus loin dans le temps, au tremblement de terre en Chine en août 2008. Et encore un peu plus loin dans le temps, au terrible tsunami de 2004, décembre, qui a ravagé la côte ouest de l'Indonésie, fait des milliers de morts. Je suis aussi renvoyé encore plus loin dans le temps, au 11 septembre 2001, avec l'effondrement de la tour des tours jumelles du World Trade Center. Et que dire en même temps, au travers de tous ces événements rappelés, ces maladies, ces accidents, ces suicides, la perversité de l'homme, le sida, la violence au quotidien. Pour chaque exemple, nous pourrions nous poser cette même question, pourquoi ? Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi là-bas et pas ici ? Il y a donc une évidence qu'il faut rappeler, si nous sommes tous concernés par la souffrance, nous ne sommes pas tous égaux devant elle. Certaines personnes sont relativement épargnées durant leur vie, tandis que d'autres, on peut le dire, se débattent parfois leur vie durant dans un océan de larmes. J'ai rencontré pas mal de personnes tout au long de mon ministère itinérant et pasteur, et j'ai vu cette, entre guillemets, inégalité, même au sein de ceux qui se réclament de la foi en Jésus-Christ. Oui, la souffrance, nous devons l'admettre, pose des difficultés, suscite des interrogations. La souffrance est d'ailleurs le premier argument de celui qui ne veut pas réfléchir objectivement sur l'existence de Dieu. Alors cette question, bien sûr, fuse à son esprit, si Dieu existe, pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi, si Dieu est souverain, si Dieu est juste, si Dieu est grand et puissant, souffrons-nous dans des situations qu'il est censé contrôler ? Et en même temps, cette question, qui est vraie et juste, peut-être, n'est pas une muraille infranchissable que l'athée va dresser orgueilleusement. Car si la Bible ne répond pas complètement à la question, cela ne veut pas dire qu'elle n'y répond pas de façon satisfaisante. C'est ce que Dieu veut. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément nous donner des réponses à toutes nos interrogations, mais c'est nous rencontrer. Et au travers du témoignage tout à l'heure, cette personne, Anne, a compris que Dieu pouvait encore plus la rencontrer dans ces moments-là. C'est peut-être d'ailleurs dans ces moments-là de souffrance que nous sommes le plus attentifs à quelque chose de plus spirituel, de plus profond. Car lorsque nous rencontrons Dieu en Jésus-Christ, alors cette question « pourquoi la souffrance ?» devient secondaire. Nous pouvons même accepter qu'elle reste sans réponse. Car le plus important devient donc cette relation nouvelle que nous avons avec Jésus-Christ et qui va changer toute notre vie. Nous l'avons entendu par ces témoignages. Un jour, Jésus rencontre un homme qui se trouvait assis au bord du chemin et qui était aveugle depuis sa naissance. Les disciples qui étaient avec Jésus lui posent la question « Maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle ? Est-ce lui ou ses parents ?» Jésus va répondre de la manière suivante « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est que pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de lui. » J'ai reçu il n'y a pas si longtemps que cela sur Internet une vidéo d'un témoignage d'un jeune homme d'une trentaine d'années, qui s'appelle Nick Vujicic, c'est un Hongrois, je crois. Cet homme est né sans membres. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous connaissez cet homme. Sans membres. Un tronc, une tête. Juste un pied qui dépasse, tout petit. Les docteurs n'avaient aucune explication médicale. Et là, si je me fais l'avocat du diable, je pourrais dire comme les disciples ont posé la question à Jésus. Mais enfin, comment se fait-il que ce garçon-là soit né comme ça? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a un péché? Ce garçon témoignait, disait « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » De sa part, il faut le dire. Et il dit « Ce verset m'a touché au cœur au point que je suis maintenant convaincu que ces choses désagréables ne se trouvent pas par hasard, par chance ou par coïncidence dans nos vies. J'ai ressenti, poursuit-il, une paix profonde lorsque j'ai compris que Dieu ne laisserait rien m'arriver dans la vie sans une bonne raison. » Ah, mais des fois, on aimerait bien savoir les raisons. Dit-il, j'ai donné ma vie entièrement à Christ à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce texte que je vous ai cité, où Jésus dit, ce n'est pas que lui ait péché ou que ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de lui. C'est pour que je puisse lui parler et me manifester avec lui. Alors, dit-il, je croyais vraiment que Dieu me guérirait pour que je sois un grand témoin de sa puissance extraordinaire. Et il est vrai que si ses membres étaient revenus, il y aurait eu une puissance extraordinaire, pensait-il en tout cas. Mais, dit-il plus tard, j'ai reçu la sagesse de comprendre que si nous prions pour quelque chose, si c'est la volonté de Dieu, cela se passera en son temps. Si ce n'est pas sa volonté, c'est qu'il a quelque chose de mieux à faire. Je vois donc maintenant cette vérité révélée alors qu'il m'utilise comme je suis. Et cet homme, effectivement, parle de ce qu'il vit avec Jésus-Christ, comment ce Christ a transformé sa vie dès l'âge de 15 ans et comment il peut accepter ses handicaps qui est très lourd et difficile. Et c'est un homme rayonnant, plein d'espérance, qui donne envie. Jésus, pour revenir à notre texte, semble discerner dans le cœur de ces personnes qui viennent lui rappeler un fait dramatique, scandaleux, à savoir une histoire qui s'est passée à l'occasion de la fête de Pâques. Quelques pèlerins étaient venus de la Galilée, territoire dont voisin plus au nord, et ils avaient été massacrés alors qu'ils étaient en train d'offrir à Dieu leur sacrifice. Le massacre avait eu lieu même dans le temple, alors qu'ils étaient en train d'égorger leurs bêtes. C'est pour cela que ces gens rappellent particulièrement ceci, Pilate, qui était gouverneur romain, a mêlé le sang au sein de leur sacrifice. Luc dépeint ici un tableau tragique, horrible, d'un fait réel, qui aurait sans aucun doute aujourd'hui fait la une de l'actualité dans tous les journaux télévisés. On ne sait pas exactement la motivation de ces gens à rappeler cette affaire. Peut-être attendaient-ils de Jésus qu'il profère quelques sévères jugements sur le gouverneur, alors encore en service, que Jésus d'ailleurs, quelque temps plus tard, rencontrera en privé. J'en parlerai un petit peu demain soir, lors de notre deuxième conférence. Oui, aux yeux des Juifs, et Jésus va le confirmer par sa réponse, peut-être quelque part, tout grand malheur pourrait être le châtiment d'un grand péché. Et voilà le mot lâché, le péché. Donc j'ai rappelé un petit peu avec le texte de notre aveugle de naissance. Ce péché qui m'amène à faire une importante et nécessaire constatation concernant la souffrance, justement, en général. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, qui parle de la création de Dieu, nous voyons que dans un monde créé par Dieu, parfait, où l'homme et la femme se trouvent dans le jardin d'Éden, dans la présence même de Dieu, la souffrance est absente. C'est parfait. La relation entre l'homme créé et son Dieu est parfaite. Si nous passons au dernier livre de la Bible, celui de l'Apocalypse, Ah, ce terme apocalypse aujourd'hui fait peur. Et pourtant, un jour, il se passera des choses extraordinaires, décrites dans ce livre. Mais si nous allons à ce dernier livre, nous lisons que dans un monde nouveau que Dieu va recréer et qu'à cela va arriver, eh bien, il n'y aura plus de souffrance. Je lis ce que dit l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera Dieu avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu. Nous pouvons donc affirmer que la souffrance n'apparaît que dans la partie de l'histoire où nous sommes encore aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque où le monde est gouverné par l'homme, qui a pris ses distances vis-à-vis de Dieu. En effet, lorsque Dieu a donné à Adam et Ève un ordre de lui obéir, de lui faire confiance pour vivre dans la bénédiction de leur Créateur, l'ordre étant « tu ne mangeras pas de ce fruit-là », c'était un test, est-ce que tu vas me faire confiance ou pas ? Par la ruse et la tromperie de l'ennemi de Dieu, qu'on appelle le diable et qui existe, l'homme et la femme ont succombé à la tentation. Et c'est à ce moment-là que la souffrance est entrée dans l'humanité. Je lis simplement ces quelques versets tirés de la Genèse. Il dit donc à la femme, « Puisque tu as fait cela, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, eh bien le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, à la terre d'où tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Que peut-on en conclure ? Que Dieu n'est pas l'auteur ni le créateur de la souffrance. Et que lui jeter un petit peu vite comme cela en disant « Si Dieu existe, la souffrance n'existerait pas. » Eh bien, c'est justement parce qu'il existe ce Dieu qui s'est révélé dans la Bible que la souffrance existe. Parce que ce Dieu a aimé tellement les hommes qu'il a créés qu'il a pris le risque de les voir s'éloigner de lui en lui proposant des choix. Dieu aurait pu créer les hommes complètement robotisés, identiques, dans leur pensée, dans leur manière d'être. Des adorateurs, point barre. Marchant à genoux, toute la journée. Criant Hosanna, toute la journée. Dieu a voulu donner à l'homme la liberté de venir à lui. Et il a pris un risque, celui de le voir s'éloigner. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme s'est éloigné. La Bible est claire à ce sujet. Ainsi, la souffrance est la conséquence directe de certains péchés particuliers, le nôtre ou celui des autres. Elle est le résultat direct de certains comportements humains, comme nous en avons rappelé tout à l'heure, tels la violence, les dépendances, l'immoralité, la cupidité, qui ont des effets destructeurs sur ceux qui en usent et en abusent, mais aussi sur leurs victimes. Oui, dit la Bible, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. C'est une promesse de Dieu, de malédiction. Mais elle est surtout le résultat du choix de l'homme de s'entêter à ne pas vouloir faire entrer à nouveau Dieu dans sa vie. C'est l'évangéliste que la plupart vous connaissez, Billy Graham, qui a dit ceci. Dieu a choisi de permettre aux hommes et aux femmes de moissonner ce qu'ils ont semé pour les aider à apprendre une leçon, à savoir que le péché produit la souffrance. Qu'est-ce avoir péché ? Franchement, je ne suis pas à la mode aujourd'hui. Ce n'est pas un discours qu'on aime entendre. C'est un mot que l'on met vite de côté. que l'on a rayé peut-être un peu de notre vocabulaire aujourd'hui, ou qu'on aimerait bien rayer. Martin Luther King a écrit « Nous détestons entendre dire que l'homme est pécheur. Rien ne blesse davantage l'orgueil de l'homme moderne. » Et il écrivait ça au début des années 60. Nous avons, dit-il, désespérément cherché d'autres mots, comme « erreur de nature », « absence de bien », « idée fausse », pour expliquer le péché de l'homme. Alors ne comptez pas sur Dieu tel qu'il s'est fait connaître dans ce livre, la Bible, pour vous mettre à l'aise avec votre péché. Et c'est justement parce que vous ne serez plus à l'aise avec votre péché et avec votre vie aujourd'hui que vous allez pouvoir commencer à réaliser qui vous êtes devant Dieu et ce que Dieu attend de vous. Car la Bible nous déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Cette loi que Dieu a donnée aux hommes pour qu'ils vivent dans une harmonie, dans une paix, et que l'homme a refusé. De cette loi qui est l'interdiction de faire le mal sous toute forme que ce soit, et qui est aussi l'ordre de faire le bien toutes les fois que cela est possible. Avons-nous obéi à cette loi? Obéissons-nous toujours à cette loi de Dieu? Certes, peut-être certains parmi nous n'ont pas tué, enfin encore que je n'en sais rien, n'ont pas volé, peut-être. Examinons très sérieusement. N'avons-nous jamais menti? Ne nous sommes-nous jamais mis en colère? N'avons-nous jamais nui à autrui? Ne fût-ce que par notre silence parfois coupable, quand quelqu'un était accusé faussement? N'avons-nous pas de la rancune contre quelqu'un qui nous a fait du tort? N'y a-t-il pas en nous de l'égoïsme? N'y a-t-il pas en nous de l'orgueil? N'y a-t-il pas en nous de l'envie? De la médisance? De la jalousie? De la cupidité? Avons-nous aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, comme il nous le demande? Qui donc oserait prétendre ne jamais avoir offensé Dieu? Oui, nous sommes donc bien coupables, et de ce fait, devant Dieu, condamnables. Car la Bible affirme ceci, « Tous ont péché ». Et chaque fois que je cite la Bible, je ne cite pas un livre, je cite la parole de Dieu. N'oublions pas cela. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou ailleurs, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés. Et encore ce texte, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà la réalité des choses que le monde ne veut pas mettre en avant. Oh, je sais, bien sûr, nous préférerions sans doute un Dieu qui nous dise que nous irons tous au paradis. Mais vous savez, Dieu n'est pas le chanteur Michel Polnareff. Une chanson qui, soit dit en passant, nous a fait beaucoup de mal. Avec un petit air qui se fredonne facilement. Et qu'on peut se surprendre parfois à fredonner. Moi le premier. Quelle utopie. Quelle utopie. Et quand je vois parfois, dans des émissions télévisées, des hommes chanter ce chant, alors qu'ils sont dans une vie complètement en dehors du coup de Dieu, je me dis, mais quelle tromperie. Un jour, ils seront surpris de voir ce mensonge. Oui, nous aimerions bien un jour que Dieu nous dise que nous aurons une seconde chance après la mort, une troisième, une quatrième. Mais pourquoi pas 10 et 20? Dieu n'est pas créateur de jeux informatiques où le héros se relève à chaque fois. Nous ne sommes pas dans le virtuel avec Dieu, nous sommes dans la réalité des choses. Dieu appelle un chat, avec des conséquences directes, précises. Et il avertit. Toujours il avertit. Il avait dit à Adam et Ève dans le jardin, « Si vous mangez de ce fruit défendu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et je ne pourrai plus, sous-entendu, vous garder dans ma présence. Vous êtes avertis ?» Oui, dit la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voilà la réalité. Après quoi vient le jugement de Dieu. Il n'y a pas de repêchage après la mort. Il n'y a pas de possibilité que quelqu'un nous fasse passer d'un endroit à un autre après la mort. Là encore, que d'erreurs et de tromperies dans notre société pour éviter justement de passer par ce brisement du moi, de notre orgueil, et de reconnaître que nous sommes coupables et pécheurs devant Dieu. C'est pour nous montrer le chemin de la vérité, celle qui libère véritablement et procure la paix intérieure, que Jésus est venu sur la terre. Ce verset a été cité par notre frère tout à l'heure. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu à nouveau que par moi. » Oui, du jardin, vous avez été chassés de la présence de Dieu. Mais ce que Dieu souhaite, c'est nous faire revenir dans son jardin. Et nous l'avons vu, je l'ai dit dans le dernier texte de l'Apocalypse, le jardin, nous y sommes à nouveau. Il n'y a plus ni deuil ni larmes. C'est l'éternité avec Dieu. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, c'est Jésus qui est venu le montrer. En disant, je suis le chemin qui mène à nouveau vers ce que vous avez perdu. C'est sur moi qu'il faut focaliser l'attention. D'ailleurs, le nom de Jésus, de plus en plus aujourd'hui, est effacé, enlevé. On en parle de moins en moins, on ne veut pas prononcer ce nom, et pourtant, c'est le seul nom qui mène à Dieu. C'est pourquoi, dans sa réponse à ces personnes qui lui rappellent le massacre au temple, Jésus va poser cette question. Mais croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, répond Jésus. Mais si vous, vous ne vous repentez pas, alors vous périrez également. Aujourd'hui, sa réponse serait exactement la même sans aucun doute. Nous comprenons alors que les milliers de gens qui sont morts en Indonésie au moment du tsunami, comme ceux qui ont été sous de violentes tempêtes, tornades ou cyclones, tremblements de terre, n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres restés vivants sur place ou ailleurs dans le monde dont nous faisons partie. Non, dit Jésus, je vous le dis, mais si vous, vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Par ces paroles, Jésus ne nie pas la justice et la souveraineté de Dieu, qui s'exerce sur les hommes selon ses propres motivations, qui ne nous est d'ailleurs pas permis de juger et encore moins de discuter. Il avertit seulement que chacun assumera les conséquences de ses choix de vie s'il ne se repent pas. Et le drame vécu par les autres devient une sonnette d'alarme, un avertissement pour quiconque respire encore aujourd'hui et le pousse à se poser la question suivante « Et si son jour avait été le mien, aurais-je été prêt à rencontrer Dieu ?» C'est ce que veut dire Jésus quand il dit « Non, je vous le dis, il n'était pas de plus grand pécheur que vous. » Mais attention, prenez garde, s'il vous était arrivé la même chose qu'eux, auriez-vous été prêt ?« Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez. » Également. Ce « vous périrez également » nous renvoie devant le jugement éternel de Dieu, devant qui tous les hommes seront trouvés coupables et dignes de condamnation, à moins qu'ils ne se soient justement repentis, qu'ils aient compris leur état devant Dieu et l'amour de Dieu pour eux, en Jésus. Vous savez, Dieu peut se servir de toutes choses pour interpeller les consciences. Et la souffrance en est une qui nous interpelle. Nous ne sommes pas insensibles à la souffrance des autres, et particulièrement lorsqu'il y a deuil. Je pense à une autre façon dont Dieu a interpellé un personnage dans la Bible. Ce personnage s'appelle Pierre. Il a été interpellé dans sa conscience non pas par un ouragan, non pas par une tour qui s'est effondrée, mais par un chant d'un coq. Intéressant. Un chant d'un coq. Pierre était cet homme-là, disciple de Jésus, qui, orgueilleux, a dit un jour à Jésus, « Moi, je resterai toute ma vie avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Jusqu'à la mort s'il le faut. Et Jésus de lui dire, attention Pierre, tu vas un peu loin. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui se passe quelques jours plus tard. Pierre renie Jésus 3 fois. Et au moment où il renie la troisième fois, c'est là que la sonnette de Dieu retentit par un chant d'un coq en pleine nuit. Et au même moment, dans le texte, lorsque le chant du coq retentit, Jésus, qui était arrêté, qui avait été battu, et que Pierre avait suivi de loin, discrètement, en espérant bien sûr ne pas se faire arrêter, que Jésus se déplace, et Pierre le voit, leurs regards se croisent, le chant du coq est là, Jésus le voit, le regarde, et Pierre se met à pleurer. Et il réalise ce qu'il vient de faire. Vous savez, il y a des regards qui en disent long. Hein. Pas besoin de mots. Et ce regard de Jésus sur Pierre devait en dire long. Un peu comme s'il disait, tu vois Pierre, je te l'ai dit il y a quelques jours. Tu as fait le fort, tu étais avec de la gonflette. Regarde, tu m'as trahi 3 fois. Tu m'as renié. Dieu voit, dit la Bible, la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent le péché. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Un regard. Et ce soir, Jésus te voit. Il faut que tu croises ce regard. Il ne faut pas détourner tes yeux de ce regard. C'est le regard de la vie. C'est le regard du salut. C'est le regard de l'espoir dans un monde de souffrance. Pour l'amener à ses larmes de repentance, il a fallu ce regard entre Jésus et Pierre. Et Pierre est ici la vraie type de repentance. Il a pleuré sur son péché, il a réalisé ce qu'il a fait. Comme d'ailleurs en opposition Judas, celui qui avait trahi Jésus, et celui représente la fausse repentance. Il avait bien affirmé, Judas, « Oui, j'ai péché, j'ai livré Jésus !» Mais en fait, il n'avait aucune larme de tristesse qui en coulait de ses yeux. Et pour échapper au remords de sa conscience, il n'a pas trouvé autre chose que de fuir dans la mort, par le suicide. Alors que Pierre, dans le remords de sa conscience, a été touché dans son cœur et a pleuré. Comme si ses larmes ont sorti quelque part ce qui était mauvais en lui. Oui, la repentance s'est réalisée le désordre moral dans lequel nous sommes par nature. C'est un réveil de la conscience. L'acte de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Ce Dieu qui est saint, 3 fois saint. Qui ne supporte pas ce que nous sommes si nous sommes dans le péché. Le péché, je l'ai dit, est la transgression de la loi. Que nul résiste à l'appel de Dieu au travers de celui qui est le seul capable de pardonner les péchés, Jésus-Christ. Mais vous me direz, comment peut-on être convaincu que Jésus pardonne les péchés? Eh bien, il y a un texte dans l'Évangile encore qui nous répond à cette question. Un jour, Jésus enseignait, des docteurs de la loi étaient assis et venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et le placer sous les regards de Jésus. Les regards de Jésus, en espérant que Jésus le guérisse. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une couverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Ils interrompent quelque part la conférence du Seigneur. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Moi, j'ai presque envie de dire, c'est pas forcément ce qu'il avait besoin là immédiatement. Et le paralytique, il avait peut-être besoin lui de retrouver l'usage de ses membres, de ses jambes. Mais Jésus le fait volontairement pour nous montrer quelque chose, pour nous expliquer qui il est et ce qu'il est capable de faire. Tes péchés te sont pardonnés. Alors, Les responsables, les pharisiens se mirent à raisonner. Mais attention, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, sous-entendu, tu es Dieu ou quoi? Pour qui tu te prends? Pour dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Et puis en même temps, c'est un peu facile, hein? Personne ne peut le prouver, hein? C'est dans ton cœur que ça se passe. Comment je peux te prouver que tes péchés te sont pardonnés? J'ai beau jeu de te dire ça. Ouais, t'inquiète pas, tes péchés sont pardonnés. Ouais, d'accord. Et Jésus de reprendre. Lequel est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? Plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés, n'est-ce pas? Moi, je préférerais te dire ça plutôt que te dire, lève-toi et marche. Parce que si tu te lèves pas et que tu marches pas, j'ai l'air d'un idiot. Eh bien, Jésus continue en disant, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi et marche. Et cet homme se lève et marche. Ce qui fait comprendre que les péchés de cet homme étaient réellement pardonnés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras pardonné et tu seras sauvé. Dieu ne parle pas de nos bonnes intentions ni de notre souci de vivre dans la vérité et la droiture. Bien sûr, cela est bon, appréciable. Mais ce que Dieu veut nous montrer, c'est l'état réel de ce que nous sommes devant lui. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous cherchons cette présence de Dieu parce que nous avons en nous cette pensée créée à l'image de Dieu. Mais je le répète, Jésus l'a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Et il faut passer par le chemin que je vous propose. C'est celui de la repentance, c'est celui de la croix, c'est celui de l'humiliation, c'est celui du brisement de ton orgueil. Tu dois réaliser cela. On nous disait que le monde ne serait plus pareil après le 11 septembre 2001, mais fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? L'argent a repris sa place, même si aujourd'hui il vacille. Les gens ont repris leurs habitudes, ils ont recommencé à prendre l'avion, peut-être en dévisageant encore plus les passagers. Les terroristes continuent leur attentat, la vie continue. On ne s'est pas méfié de tout cela, peut-être? Pas assez? L'homme ne se remet pas en cause lui-même, au plus profond de son être, en essayant de sonder l'amour de Dieu pour lui au travers de Jésus-Christ. Oui, sur le moment, peut-être on est secoué, mais on repart vite dans nos petites habitudes. Peut-être ce soir, tu es secoué. Peut-être ce soir, Dieu te parle. Attention! Demain, tu peux reprendre tes petites habitudes et ne plus avoir encore une occasion de réaliser ce que Jésus attend de toi. Alors Jésus, dans notre texte de base, va profiter de l'occasion pour se renchérir une nouvelle fois en rappelant à son tour une histoire. Ah, vous m'avez rappelé une histoire, celle de ces Galiléens du Nord, venus à Jérusalem et se sont fait assassiner. Eh bien écoutez encore cette histoire que vous connaissez certainement, cette tour. Là, pas loin de la piscine de Siloé, du réservoir de Siloé, cette tour qui est tombée sur 18 personnes qui se promenaient, qui marchaient. Il faut préciser, pour saisir davantage la portée de ce que Jésus reprend à nouveau, qu'à cette époque, les Galiléens, ces habitants du Nord, étaient peu considérés par les habitants de Jérusalem. Parce que les habitants de la Galilée étaient des gens qui étaient mélangés dans la race à cause de leur histoire, des déportations successives, et on les considérait comme des moins que rien. Ah, ces Galiléens! Nous ne savons rien sur l'événement dont Jésus fait allusion, cette tour, mais c'est une catastrophe. Elle s'écroule. Et j'ai envie de dire, malheureusement, 18 personnes se trouvaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Comme ça arrive, n'est-ce pas, si souvent? Comme encore une fois, je le répète, ces milliers de personnes dans cette fameuse tour jumelle se sont trouvées au mauvais endroit et au mauvais moment. Pas de chance. Alors ceux qui montraient d'un doigt accusateur ces malheureux Galiléens assassinés sont eux-mêmes repris par Jésus qui leur donne une leçon de la souveraineté de Dieu et de la parfaite égalité entre les hommes à ses yeux. Tous les hommes, quels qu'ils soient, sont sous le poids de la condamnation du péché avec ses conséquences, comme nous l'avons vu, qu'ils soient Galiléens, qu'ils soient de Jérusalem. Mais en même temps, Dieu ne fait pas non plus de favoritisme pour aimer et pardonner. Paul, un apôtre, dira qu'il n'y a pas de juif, qu'il n'y a plus de grec, qu'il y a un, que tous les hommes peuvent être un en Jésus-Christ. C'est pourquoi, à sa propre question, Jésus répond de la même manière. Alors, pensez-vous que ces gens qui se sont fait écraser étaient plus coupables que vous-même ? Non, je vous le dis, et c'est la deuxième fois qu'il dit la même chose. Mais si vous, vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Quel appel de Jésus à réfléchir. Il va une fois de plus à l'essentiel. Inviter les hommes à réaliser leur vraie nature pour agir en conséquence. C'était d'ailleurs le ministère d'un nommé Jean-Baptiste qui a préparé le chemin de Jésus et qui, pour préparer le chemin de Jésus, n'a prêché que la repentance et a incité ses auditeurs à comprendre le mal qui était en eux et dont Dieu a horreur. Alors Jésus invite donc ses auditeurs et peut-être vous ce soir à cette repentance. Concrètement, laissez Dieu vous convaincre de péché. Cette conviction produit dans le cœur une tristesse qui réclame de l'aide. Ensuite, il faut apporter, confesser, dire ce qui a été reconnu comme péché. Et là encore une fois, la Bible affirme ceci. Si vous confessez vos péchés, Jésus est fidèle et juste pour vous les pardonner. Souvenez-vous du paralytique. Croyez-le ça. Croyez-le. C'est une promesse. Il se trouve là l'espoir aujourd'hui, dans un monde de souffrance, en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Cette promesse, un jour un homme s'y est réellement accroché, alors qu'il était dans une situation vraiment dramatique. Je pense au moment même où Jésus est cloué sur une croix, justement pour prendre sur lui le péché de toute l'humanité, afin de l'apporter à Dieu par sa propre vie, par sa propre offrande. Il y avait à ses côtés, à droite et à gauche, deux hommes, qu'on appelle vulgairement des brigands, les fameux brigands sur la croix. Ces deux brigands sur la croix montrent qu'il y a deux chemins possibles. Il y en a un qui se tourne vers Jésus et qui dit « Écoute, si tu dis que tu es vraiment le Fils de Dieu, alors descends de la croix, fais quelque chose pour nous, délivre-nous. » Et l'autre, de dire à son collègue, « Dis donc, nous qui sommes là, c'est justice. Ce sont nos crimes, à cause de nos crimes que nous sommes là. On nous a condamnés justement, mais lui, il n'a rien fait. » Comment cet homme a-t-il pu, dans un élan d'éclaircissement, je dirais spirituel, réaliser cela? Oh, certainement qu'il avait peut-être entendu parler Jésus aux foules. Et il s'est souvenu. Peut-être lui aussi, la parole de son collègue a été comme le chant du coq pour Pierre, un détonateur d'une réalité qu'il fallait prendre maintenant, d'une promesse qu'il avait peut-être entendue. Et alors il se tourne vers Jésus et il lui dit cette parole extraordinairement profonde. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Est-ce que nous pouvons imaginer la portée de cette parole au moment où cet homme l'a dit? Ils sont tous les trois condamnés à mourir, et ils vont tous les trois mourir. Et voilà que cet homme dit à Jésus, ou sous-entend, « Toi, tu ne mourras pas. » Ou « Toi, tu es différent. » Il va se passer quelque chose. Et je crois en ce qui va se passer plus tard. « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Ce royaume de Dieu qui existe, que Jésus est venu annoncer et qui un jour va venir sur cette terre, en tout cas va enlever cette terre et venir réellement, ça va se passer. Et il lui dit, souviens-toi de moi. Et alors Jésus se tourne vers lui et lui dit cette parole, ah mon petit bonhomme, désolé pour toi, tu n'as pas été baptisé à temps, tu n'as pas donné assez d'argent à l'église, tu n'as pas assez fait ceci, pas assez fait cela, c'est un peu tard pour toi, je ne peux pas grand-chose. Ce n'est absolument pas cela. Non, il lui dit, aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis de Dieu, dans ma présence. Maintenant, aujourd'hui, parce que tu as réalisé, tu as compris qui j'étais, je suis le Fils de Dieu. Je suis celui qui ôte le péché du monde. Et en disant à ton collègue que pour vous, c'était justice d'être sur la croix, tu as confessé presque indirectement ton propre péché. Tu as reconnu que tu avais besoin d'être pardonné. Tu as reconnu ton péché. Bien sûr, cet homme ne pouvait pas prendre les points petit A, petit B, petit C, petit D que nous avons, nous, dans la parole aujourd'hui. Et Jésus le sait. C'est pour ça qu'il lui dit aujourd'hui, avec ce que tu sais, je connais ton cœur, tu es avec moi, dans le paradis. Alors nous avons compris que Jésus profite de ces deux drames, ces Galiléens et cette tour de Siloé, pour qu'une fois l'onde de choc passée, les hommes réfléchissent et entrent au plus profond d'eux-mêmes. Vous savez, une prière à la va-vite, bon, elle est peut-être réconfortante sur le moment, mais changer de vie, changer de comportement, faire un demi-tour dans sa vie, reconnaître en Jésus qu'il est le Sauveur et avouer ses fautes, c'est une autre affaire. Par la repentance, Jésus peut vous assurer cet avenir. Demain. Et moi, j'ai envie de te dire ce soir, Jésus te dit la même chose qu'au brigand. Ce soir, tu peux être avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, tu peux déjà entrer dans ma présence. Parce que Jésus est mort, bien sûr, mais il est ressuscité. C'est ce que nous fêtons à Pâques. La mort n'a pas eu d'emprise sur lui. Il est le Dieu vivant qui revient, éternel. Qui peut dire demain? Pouvez-vous dire demain, je ferai ceci? Ah, puissions-nous avoir la sagesse d'ajouter « si Dieu le veut », car demain ne nous appartient pas. Vous pouvez être fauché par un automobiliste, vous pouvez être victime d'un malaise, d'un infarctus, que sais-je encore. Qui peut dire demain? Ne te vante pas, dit la Bible, du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Alors, peut-être ce soir, vous cherchez depuis longtemps à rencontrer Jésus, mais vous n'avez pas su où le trouver. Ce soir, il passe à votre porte et il n'attend qu'une seule chose, que vous preniez la peine de l'écouter. Ne soyez pas orgueilleux au point de penser que vous n'avez pas besoin de Dieu dans votre vie. Vous vous trompez vous-même. Ne détournez pas votre regard du sien. Ne vous sauvez pas en courant pour fuir l'amour de Jésus pour vous, parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Et c'est extraordinaire cela. Moi qui prêche, nous qui avons témoigné tout à l'heure, nous n'étions pas meilleurs, mais nous avons accepté de nous laisser briser. Nous avons accepté que notre orgueil soit brisé au pied de la croix de Jésus. Jésus vous connaît tel que vous êtes. Vous ne pouvez rien lui cacher. Il connaît parfaitement votre cœur. Il voit votre conscience. Il connaît votre souffrance. Il connaît votre désir de vous en sortir. Alors il te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle qu'il faut annoncer, et que je suis fier d'annoncer, au nom de Dieu. Demandez, a dit Jésus, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors vous voilà placé ce soir devant un choix. Il y avait le brigand de droite et le brigand de gauche. Il y en a un qui a fait son choix, il y en a un qui a fait son choix. Les conséquences ont été là. Et ce n'est pas moi qui vous place devant un choix, c'est Dieu lui-même. Et dès notre naissance, nous sommes destinés à un jour prendre ce choix. Il est dit dans la Bible, c'est un homme qui a dit cela, Moïse, il a parlé de la part de Dieu en disant, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. » Comme si l'homme était assez insensé pour choisir la mort. Il précise, « Je te conseille de choisir la vie. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu ne dis rien, si tu ne choisis rien, tu es déjà dans le choix de la mort, parce que de par ta naissance, tu portes en toi ce que je ne supporte pas, à savoir le péché qu'il faut nommer. C'est ainsi. Nous n'y pouvons peut-être rien, entre guillemets, mais c'est ainsi. Donc je te demande de choisir la vie, de dire quelque chose, d'accepter mon amour, d'accepter que je sois venu du ciel pour te pardonner tes péchés. Et pour t'aider à marcher à nouveau, toi qui es paralysé de la vie à tous les niveaux, marcher d'une autre façon, parce que tes péchés te seront pardonnés. Décidez de choisir une autre vie, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Oui, si vous vous rendez compte ce soir, que le chemin que vous cherchez depuis si longtemps se trouve là à portée de main, est-ce que vous auriez assez de courage, même une petite foi, pour prendre ce chemin nouveau, pour mettre Dieu quelque part, entre guillemets, à l'épreuve, en disant « Oui, si tu existes, alors je veux bien commencer à te donner ma main. Viens au secours de ma petite foi. Aide-moi, Seigneur. » Oui, il y a un espoir aujourd'hui dans ce monde de souffrance. Cet espoir, c'est Jésus-Christ. Et il est pour toi, ce soir. Pas demain, ce soir. Demain ne t'appartient pas. J'aimerais donc terminer ce soir en vous donnant l'occasion de faire ce pas avec Dieu. Et pour vous y aider, j'aimerais que simplement nous courbions nos fronts, pour nous simplement rester un peu plus concentrés encore. Et je voudrais simplement vous lire une prière, pour vous aider, parce que peut-être n'as-tu jamais prié de ta vie, peut-être ne sais-tu pas quoi demander à Dieu, quoi dire à Dieu, bien je vais peut-être te donner une aide à ce niveau-là. Donc je lis cette prière pour commencer, ensuite je la reprendrai simplement phrase après phrase. Si vous avez senti cet appel ce soir, si vous sentez que Dieu vraiment vous amène à lui, alors vous pouvez répéter simplement cette prière dans votre cœur, à voix basse ou dans votre cœur, choisissez ce que vous préférez. Je la lis simplement pour que vous sachiez ce à quoi vous pouvez, ce que vous pouvez dire à Dieu. Nous voulons prier donc. Je vous invite à courber nos fronts, à fermer nos yeux pour rester concentrés et que Dieu puisse continuer à parler dans notre cœur. Dieu, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas heureux dans ma vie. Je me rends compte que je me suis trompé en te tournant le dos. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je me sens si coupable en face de ta sainteté. Jésus, je veux croire en toi. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me donner la possibilité d'être pardonné, lavé de tous mes péchés et réconcilié avec Dieu mon Créateur. Je te remets ma vie, je te l'abandonne, je te demande pardon pour mes fautes. Viens au secours de mon incrédulité et révèle-toi à moi. Merci Jésus de m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Je vais donc reprendre simplement cette prière. Et je vous demanderai, laisserai le temps, après chaque phrase, si vous voulez la répéter. Mais faites-le sincèrement devant Dieu. Ce n'est pas pour me faire plaisir, il faut le faire si vraiment votre cœur est touché. N'hésitez pas à le faire à Dieu. Dieu, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas heureux dans ma vie. Je me rends compte que je me suis trompé en te tournant le dos. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je me sens si coupable en face de ta sainteté. Jésus, je veux croire en toi. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me donner la possibilité d'être pardonné, lavé de tous mes péchés et réconcilié avec Dieu mon Créateur. Je te remets ma vie. Je te l'abandonne. et je te demande pardon pour mes fautes. Viens au secours de mon incrédulité et révèle-toi à moi. Merci Jésus de m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Nous voulons encore rester courbés. Simplement, continuer à laisser le Seigneur Dieu Tout-Puissant parler à notre cœur. Et je vais simplement prier. Prier peut-être pour toi, je ne te connais pas, qui a fait cette prière, afin que Dieu puisse continuer à mettre ta main sur toi. Oui, Seigneur, tu connais notre cœur à chacun. Tu connais le désir de s'approcher de toi ce soir. Tu as entendu cette prière, Seigneur, qui est venue d'un cœur sincère. Seigneur, je sais que tu vas honorer cette foi. Et je te prie, Seigneur, particulièrement pour ceux et celles qui, maintenant, ont pu répéter cette prière, ont réalisé qui tu étais et ce que tu avais fait pour eux. Seigneur, puisses-tu maintenant leur donner la conviction, par ton esprit, qu'ils sont sur le chemin de la vie. Oui, Seigneur, tu as pardonné à ceux qui sont venus sincèrement t'apporter leurs péchés et se sont repentis. Oui, Seigneur, tu veux particulièrement les renouveler et je te prie de les garder dans tes mains dans les jours à venir, qu'il y ait pour eux, parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour, une espérance jusque dans la vie éternelle dès aujourd'hui. Tu viens bientôt, Seigneur. Ce monde est bouleversé, nous le sentons. Tu es peut-être à la porte. Aujourd'hui, tu veux encore amener des hommes, des âmes à toi, pour les sauver de la mort à venir. Oui, si vous ne vous repentez pas, ce soir, dit Jésus, vous périrez tous un jour également, car mon jugement approche, et il sera parfait. Oui, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Si vous avez donc récité cette prière, ou en tout cas prié, vous pourrez la prendre à la sortie, je vous la laisse là. Et je vous propose aussi, vous pouvez prendre cette petite carte, qui est une petite carte sur laquelle vous pourrez mettre la date de cette soirée, à poser peut-être votre signature, parce que quand on signe, on s'engage quelque part aussi, pour vous aider à vous rappeler ce que Dieu a dit, vous a dit ce soir. Simplement pour vous rappeler cela. Et que vous ayez quelque chose de visuel. Et n'hésitez pas donc à le prendre. Que le Seigneur vous bénisse tous.